Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, déplacement dans le Rhône de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation pour le congrès de la FNB. Il intervenait à l'occasion de l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale Bovine qui se tenait à l'espace Ansolia à Ans. Ce jeudi 6 février, les propos recueillis de celui-ci. Puis à notre micro, Bruno Dufayet, président de la Fédération Nationale Bovine, au cours de l'Assemblée Générale de la FNB à Ans, dans le cadre du congrès 2020. Et pour conclure, Vincent Dutreuil, dessinateur lyonnais de BD, et François Mingoval, scénariste, signe Olympique Lyonnais, tome 1, qui a volé Owlbot, paru aux éditions Dupuis, dans une nouvelle collection Sport. L'histoire du petit robot humanoïde disparu qui conduira à une enquête au sein du club lyonnais et dans la ville. Une bande dessinée qui fera le plaisir de ses supporters. Jointe par téléphone Vincent Dutreuil, le dessinateur. Calade, le journal. Lorsque le thermomètre affiche une température proche de zéro, nous savons que nous aurons froid en sortant de notre maison. Les animaux sauvages ne disposent pas de ce genre de technologie. Pourtant, comme nous, les vertébrés, au moins, peuvent compter sur des thermorécepteurs dispersés à la surface de leur peau pour leur indiquer une baisse de température et leur permettre ainsi de survivre du froid. On peut se demander par exemple que deviennent les insectes en hiver. Certaines parties de son corps sont nues. Ainsi, lorsque les températures descendent de manière inhabituelle, victimes d'engelures, il n'est pas rare qu'ils perdent un morceau de ses oreilles ou de sa queue. Car, bien sûr, pour se protéger du froid, les animaux sauvages, un peu comme nos chiens et nos chats, comptent d'abord sur leur fourrure ou leur plumage. Mais lorsqu'elle leur fait défaut, la lutte se complique. Parmi les stratégies les plus courantes pour survivre au froid, il y a bien sûr aussi la migration. Même s'il s'agit là plutôt d'un moyen d'échapper au froid, en allant passer l'hiver dans une région aux températures plus clémentes. C'est ce que font de nombreux oiseaux. Certains animaux bénéficient d'un mécanisme complexe qui leur permet de réguler leur température interne pour la maintenir à un niveau constant tout au long de l'année, au prix toutefois d'une importante dépense énergétique. C'est pour cela que d'autres préfèrent opter pour une température corporelle plus basse. Ceux qui choisissent l'hibernation, par exemple, comme la marmotte ou la chauve-souris. Les poissons ont une chance. La glace flotte sur l'eau. Ainsi, ils peuvent généralement nager dessous, dans un environnement un peu protégé. Chez les mammifères comme chez les oiseaux, lorsque le froid s'installe, on peut aussi observer la formation d'une forme de graisse particulièrement appelée le tissu adipeux brun. Ces dernières sont capables de libérer de l'énergie de manière efficace sous forme de chaleur et survivre au froid en réchauffant les corps. Le manchot empereur cumule différentes stratégies. En Antarctique, lorsque les températures atteignent les moins 40 Celsius, les manchots profitent d'abord d'une certaine insensibilité au froid grâce à un plumage extrêmement dense et dont la structure agit comme un coupe-vent. La forme de leur corps semble quant à elle avoir été modelée pour minimiser la surface d'échange avec l'air froid. Et une seule couche de graisse est un système d'échange thermique. Artère, veine, complète. Le tableau, avant que n'intervienne une dernière arme, la thermorégulation de groupe. Plusieurs centaines d'individus se serrent alors les uns contre les autres pour se réchauffer mutuellement. Extrait d'un article tiré de Planète Mag. Déplacement dans le Rhône de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation pour le congrès de la FNB. Il intervenait à l'occasion de l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale Bovine qui se tenait à l'espace Ansolia à Ans ce jeudi 6 avril. Les propos recueillis de celui-ci.
Le message était à la fois un message de combat et un message d'espoir. Un message de combat parce que les voyants sont au vert, mais les prix ne sont pas là et il faut encore que les éleveurs bovins puissent retrouver de la valeur, donc il faut une meilleure répartition des revenus. Et puis un message d'espoir parce qu'il y a plein de jeunes qui se lancent dans le métier. Je pense que voilà, l'avenir de la filière bovine est encore là.
Très bien. Et la filière vous demande des efforts également au niveau de la PAC en Europe.
Oui, évidemment. Évidemment. Moi, je vais beaucoup aider. On va cibler vraiment cette filière sur la PAC parce qu'elle a vraiment besoin d'être aidée au niveau européen.
C'était Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il intervenait à l'occasion de l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale Bovine qui se tenait à l'espace Ansolia à Ans ce jeudi 6 février dans le cadre du congrès de la FNB 2020. Si les indicateurs de la production sont au vert pour la filière bovine, il est au rouge pour le revenu des éleveurs. Nous confie Bruno Dufayet, président de la Fédération nationale bovine. Il intervenait dans le cadre de l'Assemblée générale de la FNB à Anse au cours du congrès de la FNB 2020.
Un premier bilan, déjà un constat que la situation est grave. On l'a vu sur ces deux journées de congrès. Mais un objectif de faire évoluer les choses, de tirer un peu la locomotive pour que le fonctionnement de notre filière évolue, change, pour se soucier justement du souci de la production et du revenu du producteur. Des propos du ministre qui vont dans ce sens-là aussi. Le soutien du ministre sur ces sujets-là. Donc,
ça vous a rassuré ?
Rassuré, ça nous a conforté. Ça nous a conforté dans l'idée que la stratégie, le projet porté par la FNB va dans le bon sens, va aussi dans le sens de ce que prônent les pouvoirs publics. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on n'a plus de raison de ne pas réussir. On n'a plus de raison au sein de cette filière de pas réussir à faire justement remonter les prix et améliorer la situation de revenus des éleveurs français.
Alors, le plan filière qui a été demandé par le gouvernement a été mis en place et vous demandez bien évidemment un suivi de ce plan filière.
Oui, alors le suivi a déjà été mis en place par le ministre, mais ce qu'on demande justement, c'est surtout de ne pas arrêter ça, de continuer à se voir régulièrement avec le ministre et en présence de tous les acteurs de la filière pour chacun rendre compte de l'évolution de son travail, où il en est justement par rapport aux engagements qui ont été pris dans ce plan de filière. C'est ultra nécessaire qu'on ait ce regard de l'État. C'est aussi une mission, à mon sens, c'est une mission aussi de l'État de s'assurer que toute ambition des États généraux se traduise par des faits et par des choses réelles, justement, dans notre filière.
Sur la question européenne, vous lui demandez le maintien, effectivement, de la PAC, mais pas la baisse.
Non, on demande un budget fort de la PAC, bien évidemment dans un contexte après Brexit, mais un budget fort. Vous avez vu, on a expliqué la situation de l'élevage en France pendant 2 jours. Sans les soutiens de la PAC, on ne se pose plus la question du maintien de la production. La production disparaîtra. Donc la PAC a encore cette mission justement de maintenir une production, de maintenir justement aussi un modèle d'élevage qui répond à des attentes sociétales. Donc c'est un enjeu fort qu'on demande au ministre, mais aussi à Emmanuel Macron, de porter à Bruxelles.
Alors dans le cadre également du libre-échange, sujet important, la filière ne sera pas prise en otage en quelque sorte avec la ratification du CETA.
Alors, c'est un sujet fort, les accords de libre-échange. Nous sommes toujours, nous de toute façon, nous serons opposés justement à ce principe d'accord de libre-échange. Les stratégies d'import, d'export doivent se réaliser par la qualité du produit, par la capacité justement à répondre à un marché où il y a un besoin de consommation. Ce n'est pas du tout la stratégie qui est menée aujourd'hui au travers des accords de libre-échange. Et malheureusement, la viande bovine sert toujours de variable d'ajustement. Donc ça, nous ne l'accepterons pas. On n'a pas eu quand même beaucoup de garanties sur ce sujet-là, si ce n'est que le ministre a réaffirmé c'était certain qu'il n'y aurait aucune ratification du Mercosur. Je l'ai entendu, je prends acte de ces propos. Voilà. Sur le CETA, divergence de vue quand même. Le ministre évoque 12 tonnes de viande effectivement sur la France. Le sujet, il est quand même européen. Quand on signe un accord de libre-échange à l'échelle de l'Europe, c'est 2000 tonnes en Europe. On a fait plus 336% d'importation de viande canadienne en Europe. Donc on sait que le sujet de l'import de viande venant du Canada est un vrai sujet. Et nous continuerons, nous, de nous opposer justement à cette stratégie ultralibérale des accords de libre-échange.
Pour terminer, les indicateurs sont en vert. La filière bovine se porte plutôt bien, malgré effectivement ces problèmes de revenus aujourd'hui qui sont à revaloriser. Et j'allais rajouter, est-ce que effectivement la filière bovine ne peut pas s'entendre également avec les personnes qui sont opposées à la viande ?
Alors, les indicateurs de filière sont au vert, vous avez raison. Par contre, c'est ce qu'on a dit, le revenu des agriculteurs est vraiment dans le rouge. Donc là, il y a une incohérence. Ensuite, sur le sujet du rapport avec le reste de la société, on est depuis maintenant 4 ans, on a lancé des concertations avec des gens qui sont dans la construction, pas avec des abolitionnistes, des gens qui ne veulent plus entendre parler de l'élevage, mais avec des associations environnementales, avec des associations de bien-être, justement.
Des ONG. Ouais.
Voilà, des ONG, oui. Justement pour créer ce lien, pour essayer de partager ensemble l'élevage bovin-viande français de demain, et que justement d'anticiper des choses, de co-construire plutôt que d'aller sur de l'opposition systématique.
Dans le cadre du congrès de la FND 2020, qui se tenait dans le Rhône, Bruno Dufayet, président de la Fédération nationale bovine, intervenait au cours de l'Assemblée générale de la FNB à Anse, dans le cadre du congrès de la FND 2020. Et pour conclure, Vincent Dutreuil, dessinateur lyonnais de BD, et François Mingoval, scénariste, signe Olympique Lyonnais, tome 1, qui a volé Owlbot, l'histoire du petit robot humanoïde disparu qui conduira à une enquête au sein du club lyonnais et dans sa ville. Une bande dessinée qui fera le plaisir de ses supporters. Le premier album sera suivi de 2 autres, en cours de réalisation par ces 2 créateurs. Une BD parue aux éditions Dupuis, qui débute une nouvelle collection sport en partenariat avec différents grands clubs de football européens, dont l'Olympique Lyonnais. Joint par téléphone Vincent Dutreuil, le dessinateur de Olympique Lyonnais.
Oui, en fait, c'est mon vieux complice, François Mingoval, qui est le scénariste avec lequel j'ai démarré dans la bande dessinée il y a déjà 20 ans, qui m'a contacté pour ce projet, puisqu'il était en recherche d'un dessinateur lyonnais pour travailler sur l'Olympique lyonnais.
Alors, comment vous avez conjugué, en tous les cas, tous les deux, votre collaboration, en quelque sorte ?
Très naturellement, puisqu'on avait déjà signé 3 albums ensemble, donc il y a de cela quelques années. On a toujours eu le souhait de pouvoir retravailler ensemble. Au niveau de notre collaboration, elle est assez classique. On discute un petit peu en amont des éléments qu'on va mettre en place. Il écrit le scénario, je fais un premier jet sur lequel on peut ensuite intervenir et modifier des choses. Disons qu'évidemment, on a chacun un regard sur le travail de l'autre, peut apporter des modifications de manière à aboutir au meilleur résultat possible. La seule différence pour ce projet-là, c'est qu'il y avait, on va dire, une étape de validation supplémentaire, puisque l'album est labellisé aux couleurs de l'OL et que donc, bien entendu, l'OL avait un droit de regard dessus pour valider ou non l'image qu'on peut donner du club, bien sûr.
Alors, c'est le premier tome, hein ? J'imagine qu'il y en aura d'autres ?
Alors, nous sommes actuellement à peu près à la moitié de la réalisation du deuxième et il y en a un troisième qui est prévu également. Et pourquoi pas continuer ensuite, tout dépendra des lecteurs.
On peut peut-être révéler effectivement que l'on part avec un petit personnage particulier, d'un robot humanoïde.
Oui, tout à fait. Alors, si ce n'est qu'il est central dans ce premier volume, mais qu'il ne le sera plus dans les autres, même s'il est possible qu'il réapparaisse. Mais le principe des tomes, chaque histoire est complète, mais le principe de la série, ça va être d'aborder différentes facettes de l'identité du club, en fait, à travers des fictions. Et donc, dans cette première fiction, on s'est centré sur l'action de la fondation de l'OL. Une partie, on s'est basé sur ce qui est sur quelque chose de réel qui se retrouve, il y a un petit reportage en fin d'album, et on a transformé simplement l'aspect visuel pour en faire un petit personnage un peu plus fun à suivre dans des planches de BD.
C'est une énigme en quelque sorte, les 3 tomes seront un petit peu dans ce même type.
Le premier a pris effectivement la forme d'une espèce d'enquête policière, parce que voilà, l'idée centrale s'y prêtait bien. Mais le ton, en fait, va un petit peu évoluer en fonction du sujet principal de chaque album. Bon, là, il y a des personnages qu'on va retrouver. On va retrouver la journaliste et puis le jeune footballeur, mais ils ne seront pas centraux dans l'album, dans le tome 2, je veux dire. La suite, à chaque fois, on développe une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages, on enrichit un peu l'univers.
Alors, est-ce qu'effectivement, cet univers de l'Olympique lyonnais, enfin, ou des Olympiques, ou du football plus particulièrement, vous en êtes imprégné ? Vous êtes vous-même quelqu'un peut-être qui aime ce sport ou vous avez
J'étais totalement néophyte, donc j'ai joué le rôle du Candide, un petit peu comme notre personnage principal. C'est pour ça que l'histoire était pas mal pour nous, puisque ni Mingoval ni moi-même n'étions spécialistes du football. On suit ça un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et puis moi, sur le plan lyonnais, bien entendu, mais pas, j'étais pas du tout un spécialiste, loin de là. Mais on est en passe de le devenir, parce qu'évidemment, il y a un travail de documentation qui est important à la base de l'album. Et c'est l'intérêt du travail de dessinateur de bande dessinée. À chaque fois qu'on aborde un nouveau sujet, on est un peu journaliste.
Olympique Lyonnais, tome 1, qui a volé Owlbot, l'histoire du petit robot humanoïde au sein du club lyonnais et dans sa ville. Une BD signée Vincent Dutreuil, dessinateur lyonnais, et François Mingoval pour le scénario, paru aux éditions Dupuis dans une nouvelle collection Sport. L'occasion de rallier la bande dessinée à l'engouement du sport mondial numéro 1. L'Olympique Lyonnais tome 1, qui a volé Owlbot, de Vincent Dutreuil et de François Mingoval, paru aux éditions Dupuis, collection Sport. Fin de notre édition, n'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.